Radio J.
Livre au Café des Psaumes. Radio J.
Bonsoir, bienvenue à l'émission Livre au Café des Psaumes, ici Yankel Fijalkov. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Eva Ilouz, directrice d'études à l'École d'études en sciences sociales, research fellow, senior research fellow de l'Institut Van Leer, donc franco-israélienne, et ancienne présidente également de l'Académie des Beaux-Arts israélienne Betzalel. Alors, nous la recevons ce soir comme spécialiste de la sociologie des émotions. Elle vient nous parler aujourd'hui des émotions collectives et publiques. Elle a autrefois, et il n'y a pas si longtemps, travaillé aussi les émotions privées, avec un livre qui tombe à point avec l'actualité, « Les émotions contre la démocratie » aux éditions Premier Parallèle. Alors, Eva Ilouz, bonsoir. J'aime bien commencer les livres par la fin. Et en lisant la page des remerciements, vous expliquez qu'il n'a pas été si facile que ça d'écrire ce livre. Dans quel contexte a-t-il été écrit ?
Bonjour, plutôt bonsoir. Le livre n'a pas été facile parce que c'est un livre de désenchantement. C'est un livre... si tu voulais, où je me suis réveillée d'une utopie, d'un idéal dans lequel j'ai beaucoup cru, qui est celui du sionisme et d'Israël. Je n'avais pas du tout anticipé, enfin, en tout cas pas dans leur forme actuelle, les événements aujourd'hui. Je n'avais pas anticipé que ce gouvernement d'extrême droite... émergerait aussi vite. Mais le livre, en fait, est une analyse de la façon dont Netanyahou a miné de l'intérieur la culture démocratique israélienne, si pour autant qu'on mette de côté ce qu'on appelle conventionnellement l'occupation, qui en elle-même pose problème à la définition d'une culture démocratique. Mais disons qu'Israël, ayant des élections ordonnées, ayant un système parlementaire, ayant une liberté presque totale de la presse, même s'il y a une censure assez musclée qui fonctionne, on peut parler d'Israël, on a pu parler d'Israël comme d'une démocratie, sans nul doute. Il me semble que ce que la gauche israélienne dit depuis 30 ans, c'est-à-dire que les territoires occupés ne pourront pas rester scellés et loin de ce qui se passe à l'intérieur de la ligne verte, devient vrai, c'est-à-dire que cette culture militaire... d'oppression et de domination, il faut le dire de façon directe, rentre en fait dans la société israélienne elle-même et la mine de l'intérieur. Donc ce livre a été en fait un réveil désillusionné d'une histoire que j'ai voulu être une histoire d'amour, mais qui n'a pas marché entre moi et ce pays.
Voilà, donc c'est une histoire de désenchantement, une histoire de compassion, vous dites aussi. Pour autant, ce livre ne traite pas simplement de vos propres sentiments, parce que c'est un livre de sociologie qui étudie au scalpel, peut-être que la métaphore de scalpel est discutable, quatre types d'émotions collectives qui, dites-vous, sont largement partagées en Israël. Et donc, je vous propose d'abord de passer en revue ces quatre peurs, ces quatre émotions fondamentales, en commençant bien évidemment par la question de la peur. La peur qui est, avec son corollaire, la recherche de la sécurité, qui est un peu un des piliers de ce que vous appelez la psyché israélienne. Comment vous pouvez expliquer effectivement cette diffusion de ce terme clé, bitachon, sécurité, à l'intérieur de cette psyché?
Alors, je voudrais commencer et dire que c'est un livre qui analyse le populisme israélien. Netanyahou est un leader populiste qui, certes, est beaucoup plus talentueux que Trump, Et qui certes a des problèmes différents à gérer que ceux de Trump, mais qui ressemble beaucoup à Trump, à Bolsonaro, à Orban. Donc il fait partie de cette famille d'extrême droite qui sont en train de changer complètement la face de la démocratie. Donc, et le but du livre est en fait donc déjà d'établir qu'Israël n'est pas un cas à part. Israël connaît sous la férule de Netanyahou, connaît les changements que beaucoup de démocraties connaissent, et peut-être avant même, en fait. Dans ce sens-là, Israël précède, il me semble, ce qui s'est passé dans beaucoup de démocraties dans le monde. Mon but n'a pas été tant d'expliquer le populisme, il y a beaucoup de littérature qui essaye d'expliquer ce phénomène, que de le caractériser. Et je le caractérise effectivement en Israël par quatre émotions. Et l'idée, c'est que la politique, si vous voulez, c'est expliquer le monde social, c'est expliquer qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas. Mais quand on fait ça, on crée une histoire, et cette histoire contient des émotions, elle va générer une émotion. L'histoire, je pense, fondamentale, qui est structurante de la psyché juive et israélienne, c'est la peur. Et si vous voulez, je ne pense pas exagérer en disant que le peuple juif est le peuple qui a été le plus persécuté et massacré de l'histoire. C'est quand même avec beaucoup d'ironie, enfin d'ironie tragique, que ce peuple a choisi pour terre un petit lopin de terre dans une région qui n'avait aucune raison de lui souhaiter la bienvenue. C'est ce que Zev Jabotinsky dit en 1923. Dans un texte devenu célèbre.
Et Jabotinsky, qui n'était pas particulièrement...
Jabotinsky, qui est l'égérie de la droite. Bien mais sûr. Jabotinsky avait tout à fait compris que les Arabes locaux n'avaient aucune raison de souhaiter la bienvenue aux Juifs, qu'ils voyaient comme des colonisateurs. Et donc, je dirais qu'il y a deux peurs. Il y a la peur ancestrale du massacre qui s'est rattachée à la peur géopolitique d'Israël en tant qu'État-nation, dans un contexte et un territoire géopolitique particulier. Maintenant, cette peur, Netanyahou l'a transformée. Alors, je pense que cette peur était présente en Israël depuis le départ, pour de bonnes raisons. Enfin, en tout cas, des raisons qu'on peut tout à fait comprendre. Mais Netanyahou a transformé cette peur. Et il a fait ce que les leaders populistes font, c'est-à-dire qu'il a transformé l'ennemi extérieur en ennemi intérieur. Il a transformé le rival politique en ennemi. Par exemple, en déclarant que des NGOs, des organisations non gouvernementales qui défendent les droits de l'homme, sont en fait alliés avec les Arabes et que leur il y a eu plusieurs tentatives, certaines réussies, de les priver de financement de l'étranger. Quand on associe la gauche israélienne, la gauche, je vous le rappelle, qui a construit en fait le pays, hein, voilà. C'est cette gauche-là qui a construit le pays, quand on associe la gauche avec les ennemis extérieurs, quand on associe aussi des Arabes israéliens, à la limite, avec des ennemis extérieurs, on crée en fait, on va créer on va délégitimer des groupes entiers et on va surtout créer du conflit au sein de la société. Donc ça, c'est le premier élément, si vous voulez, de cette stratégie populiste, le premier élément émotionnel.
Oui, et vous parlez donc de militarisme cognitif, de démocratie sécuritariste, bon, pour illustrer un peu ce fondement finalement qui fait que la peur est toujours une justification et la sécurité est toujours une justification à différentes actions politiques.
Alors oui, le sécuritarisme, si vous voulez, c'est une doctrine politique qui fait qu'on va subordonner l'action et les institutions politiques à cette idée de la sécurité. Et c'est une idée qui est très forte parce que finalement, qu'est-ce qu'on dit dans la sécurité? On dit on veut vous protéger. Mais les démocraties, elles ne ça ne s'accommode pas bien, finalement, du sécuritarisme. Les démocraties survivent beaucoup mieux, justement, dans un climat qui n'est pas celui de la peur. Pourquoi ? Parce que le sécuritarisme nous invite et légitime la suspension des droits de l'homme. Il justifie l'état d'urgence. C'est ce qui fait que, par exemple, donc, on va arrêter, torturer des Palestiniens, on va les mettre en prison sans qu'ils ne voient d'avocat, sans qu'ils ne, qu'on leur fasse de procès. C'est ce qui fait qu'on va faire des interrogations souvent presque honteuses à l'aéroport. On va poser des questions à des gens tout simplement qu'on n'arrive pas à bien faire rentrer dans un dans une catégorie sécuritaire, sécuritariste. Et c'est ce qui fait que, par exemple, alors comme un journaliste israélien l'a dit dans un livre qui a été publié en français, mais qui n'a pas vu le jour en Israël, les Israéliens ont aussi fait des assassinats en dehors de leur territoire pour assassiner des ingénieurs qui contribuaient à qui mettaient en danger la sécurité d'Israël. Alors, encore une fois, ce qui rend cette question compliquée. Non. C'est ce que j'en venais là. Je disais, ce qui rend les choses compliquées, c'est que il y a des peurs qui sont réelles et qui sont fondées dans le réel.
Absolument.
Et puis il y a des peurs qui sont imaginaires. Et c'est-à-dire qu'on crée de toutes pièces. Quand, par exemple, Netanyahou appelle le moufti de Jérusalem, celui qui était dans les années à Jérusalem dans les années 30 et 40, dit de lui qu'il a que c'est lui qui a soufflé la solution finale à Hitler. C'est une façon de démoniser, de diaboliser les Palestiniens qui est absolument pas nécessaire. C'est un mensonge qui n'est absolument pas nécessaire.
Oui. Mais on parlera tout à l'heure de la manière dont le Premier ministre, effectivement, travaille la question de la Shoah, y compris avec ses alliés hongrois et polonais. Mais je voudrais revenir à la deuxième émotion. La deuxième émotion, moi, elle m'a posé problème. Dire, elle m'a secoué, attristé, puisqu'au fond, vous parlez du dégoût. Alors, je ne sais pas si le terme est bon, le dégoût, bon, moi, je me suis posé la question, mais bon, cette recherche de la sécurité, elle conduit effectivement, comme vous le dites, à des entrepreneurs de dégoût à développer leur récit. Mais est-ce qu'au fond, je voulais bien que dans le premier chapitre, la question de la sécurité est une question globale qui se pose à tous les citoyens israéliens, juifs ou non. Mais la question du dégoût, est-ce que c'est pas vraiment plutôt l'extrême droite finalement ? Est-ce que finalement on ne décrit pas plutôt l'extrême droite israélienne à ce moment-là ? Que la grande partie de la population.
Oui, mais c'est bien ce que je fais. Je ne crois pas du tout avoir voulu décrire la grande partie de la population. Ce que je dis, c'est très simple, et c'est pas tellement lié à la peur. C'est en fait lié à ce que j'appelle la mini révolution idéologique que le rabbin Meir Kahane.
Alors, rabbin Meir Kahane, il faudrait qu'on rappelle un petit peu.
Alors, Meir Kahane était un rabbin américain qui était venu en Israël et qui avait fondé le parti Kach, qui avait été mis hors la loi par la Knesset en 1988. Et des gens comme Yitzhak Shamir, qui était un représentant, je dirais, de l'aile droite du Likoud, Yitzhak Shamir n'acceptait pas d'être dans la même pièce que Meir Kahane. Il sortait, il avait quitté le plénum de la Knesset quand Meir Kahane prenait parole. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait un consensus absolument généralisé à droite et à gauche sur le contenu extrêmement répugnant des idéologies racistes qui étaient articulées par Kahane. Kahane a été assassiné. Son parti, de toutes les façons, avait été mis hors la loi. Mais Il a continué, ses idées ont continué à vivre et à s'épanouir. Elles se sont épanouies notamment, je dirais, dans certaines yeshivot, certaines institutions religieuses, nationalistes religieuses, hein, pas religieuses, mais nationalistes religieuses, qui sont un courant particulier. Si vous voulez, quand j'analyse les discours de ces rabbins, alors, encore une fois, il ne s'agit pas de tous les rabbins, il s'agit d'un groupe particulier, qui, certes, a une certaine influence, on peut en parler, quel est ce type d'influence. Et ces rabbins sont très préoccupés par les homosexuels, les arabes, les non-juifs en général, les juifs réformés, ils sont très préoccupés par cette question, et les juifs laïcs, les israéliens laïcs. On fait une analyse du discours très simple et on voit que les mots utilisés pour caractériser ces populations, ce sont des mots de venin, ordure, puanteur, etc. Ce sont des mots dont, si vous voulez, le but est de créer du dégoût chez la personne qui l'entend. Quand on crée du dégoût, le dégoût, si vous voulez, pour moi, c'est l'émotion de la séparation. C'est l'émotion par excellence du raciste. Et dans ce sens-là, je pense que le dégoût est encore plus primordial et plus fort que la haine. On attribue souvent de la haine au raciste. Mais avant la haine, il me semble qu'il y a du dégoût. Et il faut créer ce dégoût.
Et alors, ce qui est dramatique, c'est qu'il mobilise la religion juive pour développer ce sentiment de dégoût.
Oui, c'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous sommes totalement consternés de voir le judaïsme, qui est une religion de fraternité, une religion universaliste avec de grands et de puissants courants universalistes. C'est ce qui fait que nous sommes consternés de voir cette religion détournée, comme ça arrive dans toutes les religions. On découvre simplement que le judaïsme n'est pas protégé, n'a pas des garde-fous, alors que d'autres religions ne les ont pas. Donc le judaïsme, pour des raisons qu'on peut peut-être comprendre et que j'essaye d'expliquer, pour des raisons géopolitiques, pour les raisons politiques qui ont été celles d'Israël, une certaine branche du judaïsme, qui est notamment celle des nationalistes religieux dans les territoires, donc qui ont une conception très militaire aussi de leur religion, ultranationaliste et militaire de leur religion, ces groupes-là, détourné, je dirais, le sens du judaïsme et sa vocation. Il faut bien distinguer ces groupes-là des ultra-orthodoxes. Les ultra-orthodoxes qui, traditionnellement en tout cas, n'ont pas voulu se mêler de politique et qui ne croient que, de toutes les façons, enfin une partie d'entre eux ne croient que l'État d'Israël ne doit légitimement exister que quand le Messie arrivera. Donc ça a été, en fait, pendant longtemps, ces factions-là ont été, souvent modérées même. Elles ont été modérées, elles ont été pour la paix. Ce n'est pas le cas du nationalisme religieux, qui, lui, qui est beaucoup plus impliqué dans la politique, qui voudrait accélérer la venue du Messie par des actes politiques, qui est pour une domination, je dirais, beaucoup plus directe des Palestiniens. En fait, je pense que les nationalismes religieux voudraient en finir une fois pour toutes avec le conflit militaire qui divise les Juifs israéliens des Palestiniens. Ils voudraient, en fait, que ce conflit qui est resté larvé, géré à basse intensité, qu'il devienne un conflit à haute intensité pour qu'on puisse avoir un vainqueur clair.
Oui, et ça, c'est particulièrement inquiétant du point de vue géopolitique. Venons-en à la troisième émotion qui est finalement le ressentiment. Alors le ressentiment, ici en Europe, on l'a rencontré en Italie, on l'a rencontré en France aussi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier du ressentiment de certaines populations? Vous parlez des Mizrahi, donc des Juifs d'Orient implantés en Israël. Et vous dites que finalement, la constitution de l'actuel gouvernement, parce que votre livre est quand même un petit peu prophétique, même si vous l'avez publié pratiquement le jour des élections, finalement, ce ressentiment est aussi une base, un ressentiment de population pauvre, de population laissée en marge. Et finalement, la gauche se retrouve en position d'accusé par ces populations par le biais des positionnements gouvernementaux.
Écoutez, la gauche est accusée, mais à juste titre. La gauche sioniste... qui a fait des choses absolument remarquables. Créer ce pays, faire fleurir le désert, était absolument remarquable. Les kibboutzim étaient aussi, il faut s'en rappeler, une invention remarquable. Intégrer autant de groupes, créer des institutions qui pouvaient accueillir autant de groupes et en teint de l'ombre, dans des nombres très importants, dans un laps de temps aussi court, était absolument remarquable. Je ne tarirai jamais assez d'éloges pour ce que la gauche a fait. Mais elle a fait des erreurs. Et des erreurs, peut-être, je ne sais pas, des erreurs en tout cas qui ont été finalement, au regard de l'histoire, impardonnables. Je dis impardonnable pas parce que c'est moi qui ne les pardonne pas, mais parce que c'est l'histoire qui ne les a pas pardonnés.
Et ces populations.
Et voilà, c'est exactement ça. Une de ces erreurs, encore une fois, pour lesquelles je peux avoir de la compassion et que je peux comprendre, c'est de cela que vous parliez au début d'ailleurs. Tout ce que j'écris, dans toutes ces émotions que je décris, à la fois je les dénonce et je les comprends. Donc je voudrais préciser cela. Donc les Mizrahim ont été, il faut le dire, discriminés parce qu'ils semblaient ne pas du tout correspondre à l'idéal de la Bildung ou de la culture que beaucoup de Juifs d'Europe de l'Est qui avaient construit le pays avaient. On les a mis dans des villes périphériques. Souvent sans lycée, par exemple, donc dans l'impossibilité d'aller à l'université puisqu'ils n'avaient pas fait de lycée, mais simplement avec des écoles professionnelles. Et on a créé finalement des inégalités. On a renforcé des inégalités, on les a accentuées. Donc il faut bien comprendre ça, que ce n'est pas que l'inégalité de départ a simplement été maintenue, elles ont été accentuées et renforcées. À un moment donné, Begin, la droite, comprend cela et, il me semble, de façon démocratique et tout à fait légitime, conteste le pouvoir de la gauche en rappelant aux Mizrahim qu'ils avaient été les victimes de cette discrimination. Les Mizrahim, à partir de ce moment-là, à partir de 1977, deviennent des gens qui votent à droite.
Voilà, et c'est parti Chasse.
Et en 1984, le parti ultra-orthodoxe Chasse est créé, qui va renforcer ce processus, disons, de droitisation des Mizrahim. Et quand il s'agit en fait de 50% de la population, c'est un processus qui ne pardonne pas. Voilà. Et donc, les Mizrahim, comme beaucoup de... c'est la seule chose que je leur reprocherais, c'est de ne pas avoir utilisé de rhétorique ou de langage universaliste pour demander l'égalité, ils l'ont fait en recréant une identité ethnique et ultra-orthodoxe qui n'était même pas la leur au départ. Oui. Parce que Chasse a été une imitation de l'ultra-orthodoxie ashkénaze, alors que les Mizrahim, les Séfarades, avaient une approche, disons, du judaïsme qui était beaucoup plus tolérante, qui était beaucoup plus flexible, qui était beaucoup plus douce, en quelque sorte. Et c'est en s'identifiant avec le Likoud et Chasse qu'on a assisté à une ultra-droitisation des Mizrahim, un renoncement à une, disons, politique universaliste et à un recours à une politique des identités et religieuse, politique à la fois religieuse et des identités, à laquelle je vous avoue, moi, ne pas croire. Je crois à l'universalisme.
Oui, alors on va y venir, mais effectivement, l'universalisme, et cet universalisme, en fait, fait la distinction entre le patriotisme des premiers temps et le nationalisme aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être quelques petits mots
Oui, si vous voulez, ces trois émotions qui sont la peur, le dégoût, le ressentiment, qui peuvent être interprétés comme des émotions négatives, ne fonctionneraient pas toutes seules si elles n'étaient pas transcendées par une vision positive. Cette vision, c'est la vision de la nation et du patriotisme. Et là, je fais une distinction, et je voudrais qu'on la fasse, entre le patriotisme que j'appelle inclusif de Menachem Begin, qui, à tout moment, était très préoccupé par la cohésion et l'unité du peuple juif, et le patriotisme exclusif, c'est-à-dire d'exclusion plutôt, d'un Benjamin Netanyahou, qui n'hésite pas à exclure du peuple juif des tas de groupes qui ne seraient pas suffisamment juifs, ceux qui ne seraient pas suffisamment alignés avec les intérêts de sa politique, comme les gens de gauche ou comme les juifs réformés aux États-Unis. Et ça, il me semble que c'est un tournant extrêmement dangereux.
Oui, et finalement aussi, je me souviens d'un de vos papiers dans Le Monde où vous aviez titré l'État d'Israël contre les Juifs. Et je voudrais qu'on y revienne deux petites minutes. Comment finalement s'est fait cette espèce de retournement où le gouvernement israélien se retrouve dans un pacte finalement avec la Hongrie antisémite ou la Pologne qui va sur ses pieds.
Écoutez, il y a quelques années, j'avais été très choquée de voir que Netanyahou n'avait pas protesté contre le fait que Trump, par exemple, pendant le défilé de Charlottesville, où il y avait eu des néo-nazis qui avaient défilé en chantant « Jews will not replace us »,« Les Juifs ne nous remplaceront pas », j'avais été très choquée par le fait que Netanyahou n'avait pas protesté. J'avais été très choquée que quand Orban avait fait des statuts qui réhabilitaient le nom de gens qui avaient été actifs pendant la période nazie, quand ils avaient expulsé ou envoyé des juifs dans des camps de concentration, Netanyahou continuait business as usual. Il continuait ses affaires, ses relations diplomatiques avec Orban. Quand Netanyahou est allé en Hongrie pour rendre visite à Orban, il a été reçu de façon glaciale par la communauté juive qui se sentait très menacée. Et il était très bien reçu par Orban. Et donc, si vous voulez, il y a une sorte de renversement ironique et très étonnant qui est que Israël aujourd'hui peut soutenir des dirigeants ou des dirigeants antisémites comme Trump ou comme Orban pour uniquement ses intérêts pour ses intérêts politiques et n'hésite pas à se désolidariser de communautés juives qui vivent dans la diaspora et qui sont, elles, extrêmement préoccupées par l'antisémitisme. Donc, si vous voulez, la vocation d'Israël à représenter l'ensemble du peuple juif est en train de se défaire.
Oui, alors bon, pour finir, effectivement, vous appelez dans votre livre à un autre universalisme. En ce moment, il y a des manifestations énormes en Israël quand même, pour, dans lesquelles on trouve les milieux libéraux, les milieux laïcs, certains orthodoxes, pour effectivement se prononcer contre les nouvelles tendances de ce gouvernement. Donc c'est vraiment un livre d'actualité que vous nous présenter. Je rappelle très rapidement le titre, Eva Illouz, Les émotions contre la démocratie, aux éditions Premier Parallèle. Merci Eva Illouz.
Merci.